Midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver d'ici à Bordeaux, au World Impact Summit. Nous sommes en direct. Venez nous dire ce que vous avez envie de voir changer pour la planète, parce que vous le savez peut-être, mais il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer. On va s'intéresser aux énergies, parce que c'est ça qui fait d'abord bouger la France. Et vous allez voir qu'ici, il se passe énormément de choses. On sera aussi en direct avec une entreprise qui va bien, c'est Comerso. Elle s'attaque justement à la gestion des déchets et elle aide les associations à récupérer ce que la grande distribution ne vend pas. Et puis un petit robot recycle la mer pour pouvoir nettoyer les eaux de la mer, des lacs, mais aussi des ports et des rivières. C'est ça la France qui bouge, c'est avec vous, c'est ici en direct du World Impact Summit à Bordeaux et c'est sur Europe 1.
Europe 1.
3921, tweetez et vos questions, bien sûr, ici, en direct, à Bordeaux, au World Impact Summit. Venez nous dire, Anissa, ce qu'il faut changer, tiens, par exemple, pour soigner notre bonne vieille terre.
Oui, bonjour Raphaël, bonjour à tous à Bordeaux. Alors effectivement, solaire, éolien, marin, toutes ces innovations françaises pour les énergies renouvelables, elles vous intriguent? Vous avez envie de poser des questions aux invités de Raphaël Duchemin à Bordeaux? Eh bien, n'hésitez pas, 3921, c'est le numéro à composer dès maintenant, 50 centimes la minute. Et puis on lit vos messages également sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Et vous allez voir qu'ici, les idées fourmillent et que les innovations foisonnent pour accueillir ceux qui font déjà bouger les lignes. À mes côtés, comme chaque jour, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour Bordeaux.
Et notre coach est là aussi, c'est Marie-Éloi, fondatrice de Bouge ta boîte. Bonjour Marie.
Bonjour.
Changer les pratiques, ça commence évidemment par regarder tout simplement autour de soi et tirer profit de ce que la nature nous a donné, comme le soleil, par exemple. Bonjour Thomas Samuel.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct, ici depuis Bordeaux, au World Impact Summit, en direct sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Sona Design. Et mettre le soleil à profit, c'est une idée qui vous est venue comment? En voyageant?
J'ai eu la chance, après mes études, de faire un long tour du monde et j'ai passé du temps en Afrique, en Asie du Sud-Est, et je me suis rendu compte que le solaire était une solution très pertinente pour apporter un premier niveau d'énergie aux gros milliards de gens qui vivent aujourd'hui dans le noir.
Ouais, en Inde notamment, où je crois que vous avez fait une rencontre importante.
Oui, à ce moment-là, j'ai fait du volontariat pour une très belle structure qui s'appelle Aurore et qui avait l'habitude d'électrifier des villages avec du photovoltaïque. C'est une structure pionnière en Inde qui avait comme expérience vraiment d'aller au plus profond des villages pour apporter la lumière aux gens.
Alors, vous vous rendez compte que c'est un problème important, l'éclairage dans le monde. Du coup, vous commencez à vous atteler, vous, au concept d'éclairage solaire. Vous créez, vous imaginez des lampadaires solaires, c'est ça?
C'était une des problématiques importantes. Il y a 10 ans maintenant, il n'existait pas de solution d'éclairage public qui puisse fonctionner correctement avec du solaire, apporter une solution pour développer les activités sociales et économiques pour ce milliard de gens qu'on a évoqué. Et du coup, j'ai lancé une société, une social venture, comme on dit en anglais, pour développer des solutions technologiques et apporter cet éclairage autonome grâce au solaire.
Quand vous lancez, vous êtes toujours en Inde, puis très vite, vous allez rapatrier vos activités ici en France. Je crois qu'on est en 2011, c'est ça?
Exactement. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un gouffre technologique pour réussir à apporter ce service dans les meilleures conditions. Et du coup, j'ai rapatrié la boîte en France pour amorcer un projet de R&D structurant, aidé par le CEA notamment. Et on a réussi, grâce à beaucoup de recherches, de multiplier par 10 la durée de vie de ces lampadaires solaires, et qui les rend aujourd'hui une solution économiquement viable pour être déployée dans les quatre coins du monde.
Qu'est-ce qu'il fallait inventer? Qu'est-ce qui posait problème dans les solutions qui existaient déjà en matière justement d'énergie solaire?
Ce qui existait, c'était des kits que l'on a qualifié de « plug and pray », c'est-à-dire qu'on les branchait, il fallait prier pour que ça fonctionne. Il n'y avait pas d'intégration des différents composants. Il y avait surtout une barrière technologique au niveau de la batterie. À l'époque, uniquement des batteries au plomb équipées des produits. C'était la seule technologie pertinentes, mais elles ne résistent pas à la chaleur. Et du coup, la durée de vie était très très faible. Et du coup, on a développé, avec l'aide d'un laboratoire, une batterie au nickel qui résiste à la chaleur pendant très longtemps.
Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas vu votre lampadaire, il a un panneau solaire, il a cette fameuse batterie en nickel. Et puis, il est équipé de LED, c'est ça ?
Oui, en fait, il y a une convergence technologique aujourd'hui. Il y a le solaire dont les coûts ont chuté drastiquement et les technologies se sont améliorées. Les batteries aussi se sont beaucoup améliorées. Et la LED, donc, qui a une très grande efficacité énergétique, permet de faire fonctionner le système sans que ce soit trop surdimensionné. Et du coup, pour que le coût global du produit et des projets puisse être acceptable pour les collectivités.
Oui, c'est ça, Elisabeth. Il y a des avantages et des inconvénients, finalement, à utiliser cette énergie solaire.
Oui, ben justement, vous parliez des coûts d'énergie solaire qui a baissé. Eh bien, ça fait partie des avantages. Hein. C'est la diminution de ces coûts, ces faibles émissions de carbone. Du coup, de l'énergie solaire devient une source d'énergie fiable, moins chère. Elle est illimitée. Et des systèmes qui sont faciles à installer, avec une durée de vie assez importante. Hein, je crois que c'est environ 25 ans, la durée de vie de l'énergie solaire. Donc, ça aussi, ça fait partie des avantages.
Tout à fait. Les panneaux solaires ont une durée de vie de 25 ans. Ce qui était très compliqué, c'est d'arriver à avoir un système global, LED, structure et batterie inclus, qui puisse avoir une durée de vie qui soit pas aussi longue que le panneau solaire lui-même, mais qui permettent, avec un seul remplacement de batterie, d'arriver à 25 ans d'opération d'éclairage, du coup, gratuit, illimité pour ces populations qui ne pourraient pas avoir accès à autre chose. On ne le dit pas assez, mais d'autres technologies ne pourraient pas aller dans ces endroits-là.
Marie ?
Alors déjà, c'est très enthousiasmant d'être ici au World Impact Summit parce qu'il y a plein d'énergie positive, d'impact positif et les entrepreneurs ont un rôle clé à jouer dans ces enjeux qui sont colossaux. Et vous, vous êtes vraiment un exemple, Sona Design, parce que vous êtes d'abord orienté vers, par exemple, le continent africain. Donc vous avez dû trouver des lampadaires robustes, avec une bonne autonomie, facile à installer. Du coup, ça vous permet aujourd'hui de disrupter finalement, de faire évoluer le marché de l'éclairage public parce que je crois que vous dirigez également vers les États-Unis, vers l'Europe, etc. Et forcément, vos lampadaires sont plus faciles à installer, ils sont mieux, en plus ils ont un impact positif. Comment vous accompagnez les collectivités locales pour changer les mentalités et faire en sorte qu'on aille vers l'énergie solaire ?
Thomas Samuel.
Ça, c'est vraiment un point qui est merveilleux dans notre aventure, c'est qu'on a réussi en identifiant une problématique immense qui sont ceux qui n'ont pas d'énergie, de trouver une solution qui est du coup déployée à l'échelle. On a une plateforme industrielle très performante et ça nous permet aujourd'hui de vendre dans le monde entier, aux Émirats, au Brésil et aux États-Unis.
20 000 produits vendus aujourd'hui, c'est
déjà
ça ?
Déjà 20 000 produits déployés et on estime 1 million de gens qui bénéficient de nos lumières tous les jours.
Et en parallèle, vous avez aussi développé des kits solaires, je crois.
Alors, dans l'aventure de Suna, on sait que les problématiques de l'accès à l'énergie dans les zones rurales sont importantes et que l'éclairage public ne répond qu'à une partie du problème. Et du coup, on a en parallèle développé une autre activité qu'on appelle Moon et qui déploie des kits solaires individuels pour éclairer les maisons et digitaliser les foyers à l'aide d'un smartphone spécifiquement développé pour répondre aux besoins de ces populations.
Populations subsahariennes notamment, où les températures sont très élevées et qui peuvent les utiliser pour leur smartphone.
Exactement, et avec du contenu adapté pour créer une richesse qui leur permet de rembourser petit à petit ces kits solaires qui sont des solutions économiques qui remplacent pour elles la bougie, le kérosène, qui sont des sources inefficaces et onéreuses.
On reste ensemble, ici, depuis Bordeaux, et on va essayer de continuer à faire bouger la planète aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h09.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si les éoliennes arrivaient aussi en ville, c'est le projet de New World Wind qui va mettre des arbres d'un tout nouveau genre dans nos cités. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec une émission spéciale en direct de Bordeaux pour le World Impact Summit jusqu'au 26 mai. Aujourd'hui, avec vous et avec vos invités, Raphaël Duchemin, on parle solaire, éolien, marin, toutes ces innovations françaises pour les énergies renouvelables.
Et oui, Anissa, parce que se servir de ce qu'il y a autour de nous, c'est aussi, par exemple, vous le disiez, utiliser la force du vent. L'énergie éolienne est une des solutions. On les voit fleurir hein, dans nos campagnes, ces fameuses éoliennes, mais demain, elles seront dans nos rues, à taille probablement beaucoup plus humaine. Bonjour Jérôme Michaud-Larivière.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1, ici à Bordeaux, au World Impact Summit. Vous êtes le président fondateur de New World Wind. tout commence, je crois, en 2011 pour vous. Il y a une sorte de prise de conscience qui s'opère quand il y a la catastrophe de Fukushima.
Absolument. Les images ont bouleversé tout le monde, moi aussi comme citoyen. Et l'idée de produire dans des grandes centrales décentralisées, loin des usages possiblement dangereux, rencontre l'hostilité des gens, et quand il y a un accident, c'est la catastrophe. Donc l'idée était de renverser ce modèle, mais quoi faire ?
Bon, alors, ce qui était grand... Vous n'étiez pas du tout là-dedans. Vous
non,
étiez,
non, c'est vraiment une...
Vous étiez auteur, vous travailliez chez TF1 à l'époque.
Oui. Tout mène à l'énergie, en fait. Nos vies sont une énergie continue qu'il faut renouveler. Et là, pour notre cas, c'est la nature qui nous a inspiré la solution pour trouver un moyen de produire localement avec l'énergie du vent. C'est du harvesting. On recueille ce qui est là, disponible. Et donc, il fallait trouver un moyen simple.
Mais pourquoi le vent ? Qu'est-ce qui vous donne l'idée d'utiliser le vent plutôt qu'une autre énergie ?
D'abord, parce que moi, ne connaissant pas rien dans les énergies, il fallait bien que je trouve un secteur où j'étais capable de pouvoir apporter quelque chose. Dans le solaire, il y avait beaucoup de technologies très avancées, j'avais rien à jouer. Et prenez, toutes les autres technologies étaient déjà très... Il y en avait une un peu appauvrie, délaissée, c'était le vent. Il y avait des grandes éoliennes, et dans tout ce qui était à échelle humaine, il y avait de mauvaises machines avec de mauvaises pratiques, et il y avait peut-être un secteur à explorer. C'est celui-là que j'ai exploré.
Et donc, vous faites une balade, et je crois que vous regardez justement les feuilles des arbres bouger. C'est ça qui vous donne l'idée de créer un arbre nouvelle génération ?
Oui, absolument. L'idée, c'était de toucher le cœur des villes, là où se concentre la population la plus nombreuse. Hein. 75% de la population mondiale vit en milieu urbain ou périurbain. Et qu'il y a du vent, mais c'est un vent dégradé résiduel. Donc, il fallait trouver quelque chose de petit,
un
léger.
Un tout petit mouvement des feuilles.
Et c'est en me promenant, en effet, au Luxembourg, un jour d'été, un dimanche, très très chaud, pas de vent du tout, et les petites feuilles vibraient sur leurs tiges. Et l'idée était toute simple. Est-ce qu'on est capable de recueillir l'énergie de ce faisceillement ? Multiplié par le nombre de feuilles, on a peut-être la puissance. Et après, c'est 5 ans de R&D. Et aujourd'hui, sortent de terre des arbres. Imaginez donc un tronc des branches. Et chaque feuille contient un mini-générateur qui, agité par le vent, se met à produire de l'énergie.
Je crois qu'au départ, vous avez bricolé avec une dynamo de vélo, c'est ça ?
Oui, en effet, vous êtes bien renseigné. Mais oui, quel est le meilleur moyen pour tester ? Ben, j'ai pris mon vélo, j'ai cassé la dynamo, j'ai ouvert, j'ai regardé, c'était aussi simple que des aimants et un bobinage de cuivre. Et à partir de cette intuition et ce schéma extrêmement simple, aujourd'hui, on arrive à sortir 163 watts par feuille, alors qu'avec mon petit proto de départ, je sortais 1 watt. 1 watt, 163 aujourd'hui. Multiplié par 30 ou 35, on a énormément de puissance.
Votre arbre, il est composé de feuilles qui bougent. C'est ça, 36 feuilles en règle générale ?
Alors, on a commencé par un grand arbre, le totémique, pour évangéliser, pour faire connaître. Il est assez beau, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, on
très
nous
beau,
le dit beaucoup.
Beau.
Il crée donc une émotion. Et c'était aussi important de renouer un lien avec le moyen de production, étant donné qu'il était rompu avec les grandes centrales. Et donc, il fallait quelque chose de très beau, élégant, silencieux et efficace. Donc, l'efficacité, on l'a par le multiple, l'élégance par le design, et le silence par une très bonne technologie intégrée.
Et vous dites cet arbre de 36 feuilles, il peut fournir l'électricité nécessaire à une famille de 4 personnes, c'est ça ?
Oui, c'est ça, à peu près les dimensions, 125 mètres carrés, 4 personnes, à peu près 2500 kWh, 3000 kWh. Tout dépend évidemment de la vitesse du vent locale.
Que dit notre coach, Marie ?
En fait, c'est vraiment ce qui m'a frappé chez vous comme Raphaël, c'est votre parcours, parce que vous n'êtes pas du tout... vous venez du monde de l'art, de la littérature, de la vidéo, et ça se voit dans votre arbre à vent qui, effectivement, est beau et poétique. Même le nom, il est poétique, et c'est bien qu'on arrive à concilier le bien et le beau. Donc ça, tout ça, c'est bienvenu. Et vous êtes aussi la preuve que, ben, finalement, on peut tous, d'un coup, se dire... Eh ben, allez, je vais faire ma part, moi aussi je vais m'engager et je vais avoir un impact positif sur le monde. Quand vous commencez avec votre dynamo, c'est tout à fait ça. On commence par une petite chose et puis on peut avoir un vrai impact ensuite.
Mais vous parlez de disruption, il fallait ce parcours pour oser prendre le modèle à l'envers. Les ingénieurs que j'ai recrutés, docteurs en physique, en mécafluide, en mécatronique, étaient incapables, je vénère leur science, mais ils étaient incapables d'imaginer cette petite idée. Et il se trouve qu'elle était assez juste, puisqu'aujourd'hui on les fabrique, on les vend partout dans le monde, et maintenant on multiplie les formes, les designs pour combiner le nombre de feuilles qui vont permettre de satisfaire le besoin électrique au plus juste, pas besoin d'en faire trop ni pas assez. Donc c'est très intéressant, la modularité. On peut comme ça s'approprier son moyen de production et localement consommer tout de suite ce qu'on a produit.
Je disais, ces arbres, on les verra bientôt dans les villes, mais ils sont déjà implantés. Il y en a un à Roland-Garros, hein, notamment. On peut aller recharger son smartphone, ça tombe bien. On va le voir bientôt, puisque ça démarre. Et puis, ils sont aussi chez L'Oréal, à Vélizy, à Aubervilliers. Oui. Vous allez vous déployer comme ça. Il y a des collectivités qui viennent vers vous pour vous demander de venir mettre votre produit chez eux.
Oui, oui, c'est le plaisir de cette invention, c'est qu'elle a généré très vite une communauté de gens qui l'ont adoptée, qui l'ont comprise. Il n'y a pas de retard, si vous voulez, entre l'innovation et le marché. Les gens ont tout de suite compris le bénéfice. Il suffit d'avoir un peu de vent, un bout de terrain, et on plante ça et on a l'énergie. Aujourd'hui, il fallait accéder à une plus grande communauté de gens, et donc on a baissé les tailles pour baisser les prix et multiplier les designs pour avoir une offre, une gamme qui va de 900 watts à plus de 10 000 watts.
Oui, vous avez aussi rajouté le solaire et le thermique, hein, je crois.
Alors,
sur l'arbre.
Ça. Donc, comme on a beaucoup de demandes de partout, d'Inde, d'Asie ou d'Afrique, où il y a en effet du soleil, c'était bête de se priver de cette énergie. Donc, on a rajouté des pétales solaires au pied des feuilles et on a une réponse biomorphique encore plus belle. Et nous allons terminer ce projet avec des racines, un système racinaire qui va ajouter une troisième source d'énergie thermique. Thermale, pardon. Et ainsi, on aura plus d'intermittence. On aura trois sources renouvelables qui vont se cumuler.
C'est important, Elisabeth, hein, parce qu'il y a aussi des avantages et des inconvénients dans l'éolien.
Oui.
On va peut-être préciser les choses.
Oui, on va repréciser les choses. L'énergie éolienne ne libère aucun dioxyde de carbone au cours de son cycle de vie. Il n'y a pas besoin de carburant. Dans les inconvénients, l'éolien affecte le paysage. Ça fait un peu de bruit, mais vous, avec votre solution, il y a un arbre, il y a des pétales solaires, il y a des racines. Vous combinez seulement les avantages de l'éolien.
Merci, c'est vrai.
On reste ensemble ?
Je suis là.
On est à Bordeaux, on est au World Impact Summit. Vous êtes sur Europe 1 et on revient tout de suite.
Et il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et si le mouvement des vagues était lui aussi source d'inspiration, c'est comme ça qu'est né Sea Turns, en se servant de la force de la mer. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et la France se déplace avec Raphaël Duchemin et ses invités. Une émission en direct de Bordeaux aujourd'hui pour le World Impact Summit. Nous découvrons aujourd'hui, grâce à vous Raphaël et grâce à vos invités, en matière de solaire, d'éolien et de marin, toutes les innovations françaises pour les énergies renouvelables.
Et c'est au bord de la mer que Sea Turns est né, forcément, au bord de l'océan. Bonjour Vincent Tournery.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ici à Bordeaux, au World Impact Summit et sur Europe 1. Ça fait 10 ans, je crois, que vous vous intéressez aux énergies marines. Pourquoi ? Parce que vous êtes né au bord de la mer ?
Oui, un petit peu. Et aussi parce que depuis ma plus petite enfance, je suis passionné par la mer. Je fais de la voile, je suis plongeur. Et donc, naturellement, quand on se retrouve au bord de la mer et qu'on voit l'énergie des vagues, on ne peut que se dire pourquoi ne pas se chauffer, pourquoi ne pas s'éclairer, pourquoi ne pas se déplacer grâce à l'énergie de la mer et des vagues.
Donc, vous avez pensé, repensé à ça. Et puis, en 2015, vous vous lancez à force de chercher comment utiliser cette fameuse énergie. Vous trouvez un nouveau système pour récupérer l'énergie des vagues, c'est-à-dire ?
Tout à fait. C'est un cylindre que l'on met à la surface de l'eau, qui se met en rotation sous l'action des vagues. Et cette rotation provoque à l'intérieur des flux d'air qui font tourner une turbine, soit une turbine électrique pour faire de l'électricité, ou éventuellement une turbine pompe pour faire de l'eau douce à partir de l'eau salée.
Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ce cylindre exactement ?
Alors, à l'intérieur, il n'y a finalement pas grand-chose. C'est tout ce qui fait un petit peu l'innovation et la rupture du projet. Il y a un pendule d'eau et qui, par son déplacement, va créer des dépressions, des compressions, des flux d'air. Et finalement, à l'intérieur, on n'a pas grand-chose, peu d'éléments techniques fragiles, susceptibles de panne.
Donc ce cylindre, ce système récupère l'énergie des vagues. Et après, qu'est-ce qui se passe pour que vous la transportiez jusqu'à nous, hein, pour qu'on puisse s'en servir ?
Voilà, comme tout système d'énergie marine, il y a des raccordements qui se font à terre par le fond de la mer.
Donc des gros tuyaux, des câbles sous-marins qui passent.
Des câbles sous-marins, tout à fait. Oui.
Et qui viennent alimenter ici sur la Terre. Ça marche aussi avec l'eau douce, parce que là on est en mer, on est dans de l'eau salée. C'est important ce détail-là.
L'eau douce, c'est un marché considérable. Il y a des besoins de dessaler l'eau de mer pour faire de l'eau douce pour l'agriculture, pour l'industrie. Et donc là-dessus, c'est un marché sur lequel on veut se positionner. Et c'est un marché en plus qui, la machine, le système Seaturn s'y prête particulièrement.
Vous êtes trois pour l'instant, c'est ça, dans Seaturn.
Oui.
Vous avez commencé à lever des fonds, comment ça se passe?
Là, on a maintenant devant nous encore un programme de recherche avec d'environ jusqu'à fin 2021, avec... des essais en bassin, de la simulation qui vont déboucher après sur la mise en place d'un ce qu'on appelle un démonstrateur, c'est-à-dire un prototype à l'échelle 1 pré-commercial que l'on va mettre en site propre en mer. Quoi.
Voilà. Pour qu'on ait une idée précise, combien d'énergie est fabriquée avec un mouvement des vagues? Qu'est-ce qu'on peut récupérer? Qui on peut alimenter?
Alors, un flotteur, c'est en gros une fourchette de 100 à 200 kWh d'énergie nominale, ce qui, sur un site moyen, sur l'année, peut générer, c'est ce qui est intéressant, c'est finalement la production sur l'année, entre 200 à 400 000 MWh. Voilà.
Donc, ça peut alimenter, par exemple?
Ça peut. Alors, le flotteur peut se combiner à plusieurs flotteurs pour réaliser ce qu'on appelle une ferme et donc venir alimenter le réseau ou une ville ou une petite ville ou un site isolé.
Marie ?
Alors, je crois que vous êtes encore en phase de recherche. Vous avez deux débouchés bien clairs, à la fois l'énergie renouvelable et puis de créer de l'eau douce. Et on sait à quel point l'eau est une ressource rare dans certains pays. Donc vous avez également, au-delà de l'impact environnemental, un impact géopolitique. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous faites, c'est la persévérance que vous avez, parce que ça fait des années que vous êtes sur ce projet. Et pour voir différent, pour changer le monde, il faut cette persévérance-là. Et comment vous faites pour tenir le coup? Parce qu'on voit que vos recherches, elles sont encore jusqu'en 2021. Comment vous faites pour avancer en gardant le cap et en disant « je vais y arriver et ça va marcher »
Il faut partir sur des étapes. Et il y a à chaque fois des objectifs de franchir des étapes. Il ne faut pas voir le projet vers la fin, qui paraît inaccessible. C'est des étapes, il faut franchir ces étapes successivement.
Un pas après l'autre. Et on y arrive.
Voilà.
Elisabeth, vous avez trouvé énormément de choses finalement. On peut fabriquer beaucoup d'énergie avec la mer.
Mais complètement. Déjà, les énergies de la mer, mondialement, le marché mondial des énergies marines renouvelables, les EMR, donc hors éolien, ça pourrait générer 653 milliards d'euros d'investissement d'ici 2050. Donc il y a un marché, on le voit, un marché annuel de 53 milliards d'euros en France. Seule une usine, c'est l'usine marémotrice de la Rance, en Bretagne, qui produit de l'électricité de façon industrielle à partir d'énergie marine et plus précisément des marées. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la France, mais on a un boulevard d'innovation et vous êtes ici présent, d'innovation pour justement aller puiser cette énergie au sein de la mer.
Et on va rester ensemble et continuer à parler de la planète et des innovations françaises. À tout de suite.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On vous attend, 3921 et Twitter, bien sûr, ici en direct du World Impact Summit à Bordeaux sur Europe 1.
Le World Impact Summit, c'est l'événement qui se déroule à Bordeaux et forcément Europe 1 y est sur place. Raphaël Duchemin et toute l'équipe de La France Bouge avec aujourd'hui toutes les innovations françaises sur les énergies renouvelables. Vous pouvez d'ailleurs réagir à cette émission si vous avez des questions. C'est maintenant que vous pouvez les poser au standard 3921, 50 centimes la minute, et sur Twitter avec le hashtag Europe 1 Raphaël.
Nous sommes à Bordeaux au World Impact Summit avec Thomas Samuel, fondateur de Sona Design, Jérôme Michaud-Larivière, fondateur de New World Wind, Vincent Tournery, fondateur de Seaturn, et Marie-Éloi, notre coach, fondatrice de Bouge ta boîte, le réseau de femmes qui font bouger les choses en France, et Elisabeth Assayac, bien sûr, qui m'accompagne pour nous éclairer tout au long de cette émission. Justement, Elisabeth, on a parlé de beaucoup de choses. Oui. Je voudrais qu'on s'arrête un moment sur l'hydraulique en particulier.
Oui. Alors, l'hydraulique, ça présente aussi...
Ça tombe
aussi...
bien parce qu'il pleut en ce
oui,
moment.
Oui, là, on entend, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il pleut très, très fort. Donc, l'énergie hydroélectrique, alors, ce qu'il y a de bien, c'est que ça n'entraîne généralement aucun impact climatique ou environnemental. Elle fournit de l'électricité stable à grande échelle. Il n'y a pas besoin de carburant, là aussi. Les centrales hydroélectriques ont une longue durée, mais il y a tout de même des petits inconvénients, comme à chaque fois. C'est qu'elles affectent, là aussi, les écosystèmes, hein, les barrages, les lacs de retenue. On doit toucher aussi à notre environnement quand on installe une centrale hydroélectrique. Là aussi, de grands investissements financiers sont nécessaires pour construire cette centrale hydroélectrique.
On a vu vos parcours à tous les trois, on a vu que ça a pris du temps. Est-ce que vous avez, les uns et les autres, le sentiment que les choses sont véritablement en train de bouger? Cette fameuse prise de conscience dont je parlais tout à l'heure. Qui veut répondre? Jérôme, peut-être?
Les choses bougent, oui. Quand il y a un lien qui se crée entre l'innovation et l'usage, il faut que ce soit ou intuitif,
tangible,
fluide,
pour la
créer quelque chose de plus. Alors, c'est notre cas, pardon, parle-nous, mais en créant une émotion par la beauté du dessin des arbres, on rappelle quelque chose de très intuitif. Autrefois, l'homme allait chercher le bois, le feu pour chauffer la maison et utiliser les ressources naturelles. Et nous, on utilise le vent. Et ça rappelle aux gens qu'il suffit en fait de faire ça et on a l'électricité. Et donc, c'est un truc très humain.
Ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de retour en arrière dans cette prise de conscience, qu'on revient à la nature, Thomas ?
C'est nécessaire. Il y a une urgence climatique. On ne peut plus se projeter dans ce qu'on faisait jusqu'à présent de la même façon. Les énergies fossiles, les systèmes centralisés, c'est le passé. Du coup, il faut imaginer les solutions du futur et forcer leur implémentation à la plus grande échelle pour essayer de renverser la courbe d'extinction des espèces, d'augmentation de la température. Et il y a aujourd'hui un besoin d'accélérer l'impact de ces innovations que l'on porte tous.
C'est aussi votre avis, Vincent ?
Tout à fait, oui. Et la mer est vraiment là pour, avec des débouchés énormes et possibles.
Elisabeth,
vous dites qu'il y a un besoin d'accélérer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous freine le plus? Même si vous avez mis en place toutes ces innovations, quel serait le plus gros frein?
François Hollande en a parlé ce matin, ce sont des politiques publiques volontaristes. Pourquoi continuer à faire comme avant alors qu'il existe des nouvelles solutions qui sont souvent subventionnées? Forcer les subventions pour les nouvelles technologies, forcer l'implémentation de solutions qui...
Donc l'argent.
Concrètement,
la volonté politique.
Dans notre cas, par exemple, il y a des systèmes qui sont déployés, qui sont le passé, clairement, et des collectivités devaient être imposées de tourner vers l'éclairage solaire.
Aider à cette fameuse transition dont on parle tant.
Bien sûr, parce que l'argent est dépensé.
Marie ?
Oui, mais je rejoins tout à fait ce que vous dites, parce qu'aujourd'hui, les entreprises doivent avoir vraiment un impact positif. C'est les entreprises d'aujourd'hui, c'est urgent. Et on voit tous les trois que vous utilisez le vent, le soleil, la mer, qui sont gratuits, sans les piller. Donc, c'est vraiment ce qu'il faut faire maintenant pour avoir un impact. Qu'est-ce qu'on attend pour foncer ? C'est vraiment ça. Qu'est-ce qu'on attend pour foncer ? Parce que maintenant, il faut de l'engagement. Comment faire pour que ces collectivités, les institutions, comme disaient Raphaël et Elisabeth, comment on fait pour qu'elles s'engagent clairement, pour qu'elles changent de modèle, pour qu'on y aille maintenant?
Certaines se sont déjà engagées avec avec les uns et les autres. Qu'est-ce qui manque?
Il y a une inertie naturelle, on peut la comprendre. Il faut lutter contre l'inertie. Le meilleur moyen, c'est de démontrer que ça fonctionne, que c'est mieux qu'avant et qu'en multipliant les installations locales, c'est vraiment le local qui va gagner sur le global, mais avec cette pensée pour la planète.
Montrer l'exemple.
Multiplier les exemples.
Et c'est ce que vous faites tous les trois. Merci d'avoir été avec nous ici à Bordeaux en direct du World Impact Summit.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
On reste ensemble et on va s'intéresser à une entreprise qui gère les invendus pour les grandes surfaces. Elle les redistribue aux associations. C'est Comerso, c'est l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
Europe 1.
Et jusqu'à 14h sur Europe 1, la France bouge avec une émission spéciale en direct de Bordeaux à l'occasion du World Impact Summit jusqu'au 26 mai. Raphaël Duchemin, il est temps de découvrir maintenant depuis Bordeaux l'entreprise française qui va bien.
Et cette entreprise, Anissa, c'est Comerso. Bonjour Rémi Gilbert.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Comerso, directeur général également aujourd'hui.
Exactement.
Je disais tout à l'heure que tout a débuté dans une voiture, je crois, lors d'un covoiturage. On est en 2001.
2011, exactement.
2011.
En fait, tout a démarré dans un covoiturage en 2011 entre Nantes et Toulouse. Voilà, donc moi je faisais du conseil en création d'entreprise.
Et c'est là que vous rencontrez votre cofondateur?
Voilà, Pierre-Yves, exactement, qui était responsable des ventes en grande distribution. Et du coup, on a échangé ensemble. On s'est rendu compte qu'il y avait tout un tas de produits qui étaient jetés chaque jour en grande distribution. Et on a mené une étude de marché jusqu'à créer l'entreprise en 2013 pour revaloriser les invendus.
Il se passe quand même 2 ans pendant lesquels... Qu'est-ce que vous faites ? Vous réfléchissez à la manière dont on peut agir ?
Alors, effectivement, ce n'est pas si simple. C'est-à-dire qu'au début, il y a un constat. Il y a 1 à 2% du chiffre d'affaires des enseignes de grande distribution et des industriels qui est jeté. Et à côté de ça, il fallait trouver un business model, c'est-à-dire faire une belle étude de marché pour savoir du coup si les gisements, entre guillemets, étaient suffisants, s'il y avait un besoin. Notre idée, c'était de créer le premier opérateur logistique en transport frigorifique pour acheminer les invendus entre grande distribution et association. Mais il fallait voir si c'était viable, si le modèle économique marchait, si effectivement si les associations avaient un besoin, etc.
Et la réponse est oui.
Cette étude de marché a confirmé. Et du coup, on a créé l'entreprise donc en 2013 à 2. On était encore 3 en 2016 et on est actuellement 40.
Oui. Vous êtes basé à Agen, c'est ça ?
Alors, on est basé à Agen. Le siège est à Agen. On a des bureaux à Bordeaux. On a des bureaux aussi à Angers, puisqu'on a développé l'entreprise à distance. C'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'on a développé... Moi, je suis resté à Agen, Pierre-Yves à Angers, et on a développé la boîte à distance. Donc maintenant, on couvre toute la France. On a également des bureaux sur Paris.
Alors, quand on dit on jette trop en grande surface, c'est quoi ? C'est 1 à 2% ?
Exactement, 1 à 2% du chiffre d'affaires qui est jeté tous les jours. Donc concrètement, c'est tous les jours un chariot, un demi-chariot qui est jeté, qui est mis à la poubelle, faute de solution adaptée, donc faute de collecte frigorifique adaptée pour venir récupérer ces produits et les acheminer aux associations d'aide alimentaire. Et nous, c'est ce qu'on a mis en place.
Vous collectez à J+1, J+2 ?
Voilà, c'est ça, à peu près, J+1, J+2. C'est exactement, ce sont les chartes de retrait. Et on fait des boucles logistiques pour acheminer ces produits-là aux associations alimentaires qui en ont de plus en plus besoin.
Avec des camions frigo, notamment ?
Exactement, avec des camions frigo.
Qui sont à vous ?
Alors, ils se sont prestés, ce sont des sous-traitants, voilà. Et on équipe aussi également les associations d'aide alimentaire qui ont du matériel non frigorifique, par exemple. Donc, on les équipe en camions frigorifiques pour qu'elles puissent assurer elles-mêmes avec des outils de traçabilité, un smartphone endurci, des caisses qui sont tracées avec des puces RFID pour avoir tout le suivi de la chaîne du froid de manière complètement professionnelle et redistribuer ces produits dans de très bonnes conditions.
Vous êtes de plus en plus nombreux sur ce secteur aujourd'hui. Votre force à vous, c'est que vous êtes déployé dans les grandes villes, mais pas seulement. Vous êtes aussi dans les petites villes. Vous êtes en proximité. C'est ça la grosse différence avec, par exemple, Phoenix, notre copain Jean Moreau qui est coach ici à la France Bouge.
Tout à fait. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de magasins qui avaient peu de solutions en zone rurale et en périphérie urbaine. Donc les premières boucles ont été mises en place en ruralité et ensuite on est venu dans les grandes villes. Mais effectivement, il y a énormément de magasins qui sont situés en zone rurale qui n'ont pas de solution de collecte, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un magasin de grande distribution doit être collecté tous les jours pour ne pas jeter les produits. Nous, on passe du lundi au vendredi, voire même du lundi au samedi.
Et ça marche, hein. 15-20 associations au début, exactement. Je crois, et 450 aujourd'hui, un peu plus.
Oui, voilà, c'est ça. On a environ 800 associations partenaires, plus de 450 clients. On a redistribué plus de 7400 tonnes à date. Et en fait, on est en train de se diversifier. On est en train de créer la première plateforme numérique de gestion du don, de gestion des invendus au travers du don, du déstockage et de la valorisation des déchets, donc notamment des coproduits, via une plateforme numérique. Ce qui fait notre force, c'est le numérique et la logistique.
Marie, la coach.
Oui, c'est vraiment de la mise en lien et du collectif hyper vertueux. Puis vous apportez une solution globale aussi au supermarché parce que vous leur permettez une meilleure gestion, donc une meilleure rentabilité. En plus, un impact en local, avec un ancrage local, environnemental, social, bien sûr, tout ça. J'imagine qu'ils sont obligés de s'y mettre parce que pour leurs consommateurs qui sont de plus en plus exigeants, pour leurs collaborateurs aussi, on est tous en recherche de sens.
Et puis il y a des lois qui sont passées entre-temps sur le gaspillage alimentaire.
Effectivement, il y a la loi Garot qui oblige les magasins de ne plus jeter des produits encore consommables. Donc effectivement, toutes les enseignes se sont saisies du problème entre guillemets. Et nous, on est une solution opérationnelle pour mettre en place les politiques RSE des groupes. Donc c'est la grande distribution, mais également aussi les industriels pour répondre à ce problème et à mettre en place de manière opérationnelle les politiques RSE dans les grands groupes.
Et vous avez un impact, un retour pour les consommateurs qui demandent ça aussi ?
Bien sûr, on a de plus en plus de consommateurs qui regardent même où Commerceau est présent pour en faire aussi une sorte de différenciation entre les différentes enseignes et magasins, puisque pour de plus en plus de consommateurs, c'est juste normal qu'un magasin redistribue des produits qui sont encore consommables pour ne pas les mettre à la poubelle.
La suite, c'est quoi ? Le développement à l'international ?
Exactement. Donc là, on est en train de regarder pour l'Espagne et l'Italie. On regarde aussi de manière très approchée les États-Unis. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est vrai que l'outil numérique nous permet de nous déployer désormais rapidement. Et les deux prochaines pistes de développement sont le déstockage et la valorisation des déchets, puisqu'on peut valoriser les déchets, les coproduits en fait, pour en faire de l'alimentation animale, notamment pour en faire du biocarburant, pour en faire, il y a tout un tas de gisements, de déchets qui peuvent servir, c'est-à-dire que les déchets des uns deviennent les ressources des autres. Et ça, on est en train de mettre en place avec la logistique aussi, puisque c'est notre spécialité.
C'est Comerso, c'est l'entreprise qui va bien. Merci.
Merci beaucoup à vous
d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Aspirer les déchets dans les lacs, les rivières ou dans les ports, oui, c'est possible grâce à un petit robot créé par Recyclamer. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec une émission exceptionnelle aujourd'hui en direct de Bordeaux pour le World Impact Summit avec Raphaël Duchemin évidemment et ses invités. Raphaël, il est temps de découvrir la solution du jour qui concerne la mer aujourd'hui.
Effectivement, les déchets en mer, dans les lacs, dans les ports, Anissa, l'enjeu, vous le savez, il est mondial. La solution du jour, Elisabeth, c'est un aspirateur des mers.
Ouais, oui, les canettes, les bouteilles d'eau, les tubes de crème solaire. Ce robot est peut-être la solution. Il est rectangulaire. Il a été conçu pour récupérer les déchets de surface présents en mer ou sur les plans d'eau. Il s'appelle Recyclamer. C'est une sorte d'aspirateur à déchets. Ce n'est pas une épuisette. C'est un aspirateur qui aspire, qui est alimenté grâce à l'énergie solaire. Il est doté de capteurs qui mesurent la concentration d'oxygène, le pH, la température. Il collecte les données des déchets présents à l'intérieur de l'eau, et grâce à un tissu spécial, ce robot peut capter les hydrocarbures présents à la surface de l'eau. Bonjour Max Colombier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur de Recyclamer. Alors comment vous avez mis au point ce robot magique ?
Nous sommes partis d'une idée simple qui concernait effectivement tous les objets flottants et de préférence les collecter avant qu'ils arrivent au fond
de l'eau.
Au fond de l'eau, où là c'est beaucoup plus difficile. Et à partir d'une association, nous avons abouti aujourd'hui à une start-up, ma foi, pour réaliser ce fameux robot.
Alors là, vous êtes très fort, c'est que votre robot nettoyeur permet d'agir dès la zone du rejet du déchet, donc il ne va pas au fond de l'eau. Comment vous en êtes arrivé là? Je crois que vous avez été incubé grâce à l'Agence pour la valorisation de la recherche universitaire du Limousin.
Du Limousin, de Limoges, effectivement. Puisque paradoxalement, nous sommes installés donc non pas en zone, on va dire, littorale.
Pas au bord de la mer.
Pas en littoral, absolument.
C'est pas grave, on a le droit aussi d'avoir de bonnes idées.
On a le droit d'avoir la passion de la mer, même au milieu des terres. Et donc, nous sommes installés en Limousin, donc à Saint-Julien notamment, et à côté de Limoges, puisque Limoges nous a accueillis dans un premier temps. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous sommes installés à Saint-Julien. Alors, je précise quand même que la gamme Recyclamer, c'est une gamme de robots. Le modèle que nous...
Oui, parce que moi, j'ai dit petits robots, mais vous en avez différentes tailles, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Donc, nous avons en projet, nous avons trois tailles de robots. Une taille, donc, effectivement, à destination des zones portuaires, de façon à ce que ça puisse être, comment dirais-je, au milieu des bateaux, puisque bon, il ne faut pas...
C'est là où il y a le plus trop, de déchets,
voilà, il
faut
de pas déchets aussi. Grand, c'est ça, absolument. C'est une gamme aussi qui est prévue pour aller au-delà et au milieu des océans. Voilà.
Marie ?
Oui, alors déjà, ça va faire du bien parce que moi, sur les réseaux sociaux, j'ai un sentiment d'impuissance énorme en voyant des plages de plastique, des océans de plastique, des baleines éventrées avec du plastique à l'intérieur. Donc merci si vous pouvez faire quelque chose. Je voudrais savoir comment vous allez le commercialiser pour que ce soit le plus efficace possible.
La commercialisation donc, s'effectue bien évidemment principalement au travers donc, des collectivités, des gestionnaires, puisque quand on parle de ports...
Gestionnaires de ports, notamment.
Voilà, ouais. c'est plutôt soit des acteurs publics ou parapublics. Ça peut être aussi des privés dans le cadre de Marina. Ce qui est très intéressant, c'est que nous sommes approchés aujourd'hui donc, sur un plan international par des pays assez éloignés, puisque la dernière demande provient de la Nouvelle-Zélande, ma foi.
Ah oui.
Qui est de l'hémisphère sud.
C'est toujours à la pointe. Hein.
Et donc, c'est toujours à la pointe.
Ce qui est bien, c'est que vous avez su en parler juste pour que ça arrive jusqu'en Nouvelle-Zélande.
On a su en parler. L'intérêt, c'est que c'est un produit aujourd'hui qui est pratiquement terminé. Donc, on est en phase de pré-série. On est en train de réfléchir justement à sa fabrication en pré-série. Il faut savoir que la semaine dernière, nous étions donc présents à Lisbonne aux European Maritime Day, organisé par la Commission européenne. Donc aujourd'hui, effectivement, ça permet de faire connaître le produit. Ça permet aussi donc d'avoir les retours d'expérience. Et bon, c'est un produit qui est destiné à évoluer. C'est-à-dire que, bien évidemment, à force d'interviewer, donc je dirais, à la fois les utilisateurs, en étant nous-mêmes aussi marins, puisque bon, on pratique de la voile, on connaît un petit peu les problématiques qui peuvent se poser. Et donc notre produit, on essaie de le faire évoluer.
Et il est français. Il est fabriqué
français.
En France. 100%.
Il est français, 100% français.
Même le sac qui reçoit les canettes,
absolument,
les bouteilles.
Absolument. Alors, il a été conçu par mon associé et ami Alain d'Alphonse Opéral, qui malheureusement n'a pas pu prendre la parole à ma place. Mais je dirais que nous sommes titulaires de deux brevets autour de ce système. un brevet donc, concernant l'aspiration, puisqu'il faut savoir que c'est un système qui ne pousse pas les déchets, c'est un système qui aspire les déchets. Et nous sommes le seul au monde actuellement à pouvoir proposer ça.
Vous le vendez et vous pouvez aussi le louer.
Alors nous avons aussi, déjà il faut que nous le fabriquions en série, mais nous envisageons effectivement une location, ce qui permet de faire évoluer, je dirais, par rapport aux attentes du client, le produit. C'est-à-dire qu'il pourra bénéficier à ce moment-là des différentes améliorations qui arriveront.
Ça s'appelle Recyclamer, c'est le robot que vous verrez très bientôt dans les ports, en tout cas on l'espère. Robot 100% français. Merci d'être venu nous présenter cette solution. Merci à Marie qui était notre coach depuis le World Impact Summit aujourd'hui à Bordeaux.
Merci.
Elisabeth, on se retrouve lundi. Lundi, la France bougera et nous parlerons tennis. Et oui, Roland-Garros évidemment.
À lundi, Raphaël Duchemin sur Europe 1. Dans un instant, à 14h pile, vous allez retrouver Christophe Ondelat pour Ondelat Raconte. Christophe Ondelat qui va vous raconter aujourd'hui l'histoire de Sabine, une jeune femme qui découvre qu'elle est une enfant adoptée à l'âge de 33 ans. Ses parents n'ont pas eu le courage de lui dire avant. Elle se lance alors dans la quête de ses origines. Sabine, née sous X, c'est dans un instant sur Europe 1.